Radio Kapi.
Le journal. Patience Ngalula Mbombo à la présentation.
Session spéciale du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur la RDC à Genève. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, qui y prend part, dit craindre des conséquences à moyen et long terme dans la région, notamment la résurgence du choléra, les risques élevés d'impox, l'interruption brusque de la scolarité des enfants et la multiplication des violences sexuelles. Bintou Keïta est à suivre dans ce journal. Trois personnes d'une même famille brutalement égorgées par des miliciens Mobondo dans la nuit de mercredi à jeudi dans la commune de Maluku à Kinshasa. Selon les députés provinciaux David Bisaka, plusieurs véhicules venant de Kinshasa sont bloqués à Mongata en raison de cette insécurité. Notre invité est Sam Bokolombe, candidat député national, invalidé par la CENI lors des législatives nationales de 2023 à Bassankoussou. Rétabli par le parquet général près la Cour de cassation, Sam Bokolombe annonce qu'il va user de toutes les voies de recours pour notamment obtenir réparation. Bonsoir à toutes et à tous. Avant d'aller plus loin, cette information en provenance de Genève. Les 47 États membres du Conseil des droits de l'homme de l'ONU ont accepté vendredi 7 février de lancer une enquête sur les exactions dans l'est de la RDC où sévit une offensive du groupe armé M23 soutenue par les troupes rwandaises. Le projet de résolution présenté par Kinshasa a été adopté sans vote lors d'une session extraordinaire à Genève. Dans un premier temps, une mission d'établissement de faits nommée par les commissaire aux droits de l'homme se penchera sur ces abus. Après un premier rapport dans environ 7 mois, une commission d'enquête internationale composée des 3 experts désignés par l'ambassadeur suisse à l'ONU à Genève, Jürg Lobert, président du Conseil, prendra le relais. Les textes exigent le retrait du M23 et condamnent le soutien de l'armée rwandaise à ces groupes dans l'est de la République démocratique du Congo. La résolution condamne également l'exploitation illicite des ressources naturelles dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu et exige des mesures strictes pour mettre fin au pillage de ces ressources qui alimentent les conflits et financent les groupes armés. En marge de cette session spéciale du Conseil des droits de l'homme sur la RDC tenue à Genève, la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, qui a participé à cette session, a fait savoir que depuis le début de cette année, la mission onusienne fait face à une avancée sans précédent du M23 et des forces armées rwandaises. Elle a exprimé ses craintes quant aux conséquences au moyen et long terme, notamment la résurgence du choléra, les risques élevés des mpox, l'interruption brusque de la scolarité des enfants et la multiplication des violences sexuelle. Elle plaide donc pour des mesures urgentes afin de stabiliser la région. Écoutons l'extrait de l'intervention de Bintou Keïta recueillie par Askin Zigbia Tayoro.
Il est impératif que des mesures urgentes soient prises pour stabiliser la région, rétablir la paix et permettre une reconstruction durable. Monsieur le Président, je rappelle la nécessité de poursuivre les négociations diplomatiques entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda, notamment dans le cadre du processus de Luanda. Je tiens à souligner le risque d'expansion du conflit dans la région si des mesures urgentes, dissuasives et contraignantes ne sont pas prises pour arrêter l'escalade de la violence. Le cessez-le-feu unilatéralement annoncé par le M23 et son partenaire, l'Alliance Fleuve Congo, le 4 février, n'a tenu qu'un seul jour et permis le renforcement présumé de leur position au nord et sud Kivu et la reprise d'intenses combats dans les environs de la ville de Bukavu. La reprise des offensives dans des centres densément peuplés, comme ce fut le cas à Goma, entraînerait des conséquences dévastatrices sur la population civile.
Dans la même optique, les sommets conjoints entre l'EAC et la SADC sur la crise sécuritaire dans l'est de la RDC s'ouvrent ce vendredi à Dar es Salaam en Tanzanie. La réunion interministérielle précède les sommets de chefs d'État ce samedi. Le président congolais Félix Tshisekedi y participera. Selon sa porte-parole Tina Salama, qui l'a confirmé à Radio Okapi, le chef de l'État attend notamment le retrait immédiat de l'armée rwandaise sur le sol congolais. Écoutons Tina Salama au micro de Grâce Hamza.
Oui, le président de la République va prendre une part active, en tout cas au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC, hein, EAC, à ce sommet extraordinaire qui est organisé à Dar es Salaam. Alors, par sa participation, le chef de l'État s'inscrit dans la voie de la paix qui est tracée, vous le savez, par l'Union africaine et soutenue bien évidemment par les Nations unies. Et donc, nous, en tant que pays, où on va dire, au cours de ces assises, la RDC voudrait en tout cas mettre, au-delà de toutes nos revendications, également l'EAC devant ses responsabilités en ce moment où le Rwanda, membre de l'EAC, a envahi la RDC, un autre État membre de cette institution. Alors, ce que la RDC attend de ce sommet, c'est en tout cas un cessez-le-feu immédiat, une condamnation claire de l'agression, un retrait bien évidemment des troupes rwandaises et une remise de la ville de Goma à l'administration officielle. Et aussi, hein, ce qui est très important pour des raisons humanitaires, la réouverture de l'aéroport de Goma pour des raisons d'évacuation médicale et approvisionnement en appui humanitaire de tous ordres.
À juste titre, Amnesty International appelle à un leadership régional pour prévenir de nouvelles atrocités et tenir les responsables présumés responsables de leurs actes. Cet appel intervient alors que se tient le sommet conjoint de chefs d'État et de gouvernement de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, les 7 et 8 février en Tanzanie, consacré à l'escalade des combats en RDC. Jeff Ngoy pour les détails.
Ce sommet spécial sur la situation très grave en République démocratique du Congo n'a que trop tardé. Les conséquences catastrophiques sur les droits humains du conflit armé dans le pays n'ont que trop duré. Aujourd'hui, des centaines de milliers de femmes, d'enfants et d'hommes sont de nouveau contraints de fuir les combats, endurant des conditions désastreuses et tentant désespérément d'échapper à la mort, déclare Agnès Kalamar, secrétaire générale d'Amnesty International. Selon Amnesty, les États et les organisations intergouvernementales, notamment la Communauté d'Afrique de l'Est, la Communauté de développement de l'Afrique australe, l'Union africaine, les Nations unies et l'Union européenne, doivent intensifier leur engagement en ce moment décisif, dénoncer ceux qui rendent possibles les attaques se déroulant à Goma et au-delà, et faire clairement savoir que tous les responsables présumés de ces atrocités devront répondre de leurs actes dans le cadre de procès équitables. Il est grand temps, d'après cette ONG, de faire en sorte que les auteurs de crimes relevant du droit international commis en RDC depuis près de 30 ans rendent des comptes.
Entre-temps, hier à Niabibwe, dans le territoire de Calais, province du Sud Kivu, les bombardements aériens de l'armée régulière sur les positions de rebelles M23 ont causé des dégâts matériels et humains parmi la population civile. Des maisons ont été détruites, des personnes blessées et des lignes électriques haute tension de la Société nationale d'électricité ont été touchées. Jean Kassami fournit plus de détails dans les rapports de synthèse élaborés par la Société civile de Calais.
Le rapport mentionne que les bombardements ont causé 3 blessés, une quarantaine de maisons détruites et 3 câbles électriques haute tension de la SNEL coupés. Au regard de tous ces dégâts, les auteurs du présent rapport recommandent aux autorités militaires de bien vouloir mener de telles actions loin des zones résidentielles pour épargner les vies humaines et les biens des populations. Outre ces dégâts collatéraux issus des bombardements, les forces vives du territoire de Calais déplorent également certains actes, notamment les pillages commis par certains militaires de l'armée loyaliste dans ce territoire de Calais. Pour le moment, nous n'avons pas encore de réaction des autorités militaires dans la zone.
C'était plutôt Donna Madimba. Restons au sud Kivu cette fois pour parler de la troisième zone de défense des FARDC, commandée par le lieutenant général pacifique Masunzu, qui rassure la population du territoire de Calais de sa détermination à stopper l'avancée du M23 vers les chefs-lieux du territoire de Calais et de la ville de Bukavu. Le porte-parole de la troisième zone de défense, le major Nestor Mavulisa, a annoncé que le général Masunzu a inspecté toutes les lignes des fronts jeudi. Écoutons les porte-parole de la troisième zone de défense dans cet extrait sélectionné par Jean Kassami.
Le commandant de la troisième zone de défense, le lieutenant général Masunzu Pacifique, vient personnellement de conduire une forte délégation au chef-lieu du territoire de Calais, 6 février 2025 jusqu'à Ihoussi. Cette tournée sur toute la ligne de front a comme objectif de couper court aux rumeurs propagées par l'ennemi, faisant état de l'occupation de l'armée rwandaise et ses pantins du M23 de cette entité administrative. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes et continuent à assurer la sécurité de toute la population, sans distinction aucune, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national à 50 cm de la République démocratique du Congo ne sera laissée au profit de l'armée rwandaise et ses supplétifs. Nous appelons toute la population de la province du Sud-Kivu en général et celle de la ville de Bukavu en particulier au calme et à faire confiance à son unique armée, le FARDC, et de ne pas prêter oreille aux messages mensongers propagés par l'ennemi de la République dans les réseaux sociaux et ne jamais le relayer sous quelque forme que ce soit.
Trois personnes ont été brutalement égorgées par des miliciens Mobondo dans la nuit de mercredi à jeudi dans une ferme située à 1 km du village de Mongata sur la RN17 dans la commune de Maluku à Kinshasa. Selon le député provincial David Bisaka, les victimes appartenaient toutes à la même famille. Les corps ont été transportés jeudi par le villageois sur des nattes et enveloppés dans des pagnes pour l'inhumation. Actuellement, plusieurs véhicules venant de Kinshasa sont bloqués à Mongata en raison de l'insécurité, rapporte la même source. L'élu de Kwamout condamne ces actes et alerte sur la présence des miliciens le long de la RN17 où ils opèrent. Écoutons le député provincial David Bisaka, élu de Kwamout au micro d'Irène Momalzolo.
Je tiens à exprimer ma profonde tristesse face à la nouvelle attaque des miliciens Mobondo qui a encore adé notre communauté. Mercredi à 23h30, une ferme située à 1 km de Mongata a été attaquée. Il y avait 4 personnes sur place, une femme et 3 hommes. La femme qui prenait sa douche derrière la maison a remarqué la présence de miliciens et a réussi à s'échapper. Les miliciens ont alors égorgé les 3 fermiers. Cette ferme est située sur la route nationale numéro 17 dans la commune de Maluku. Mais cette route-là va jusqu'à Banunuvi, ça traverse mon territoire de Kwamutu. Et tous les véhicules en provenance de Kinshasa pour Bandundu, Massiambio sont bloqués à Mongata car ils ne savent pas où se trouvent ces miliciens. Les Mobondo ont réussi à contrôler l'espace entre Mongata jusqu'à Aurevoi à Maluku. Je demande au VPM de la Défense d'autoriser des opérations de ratissage dans les zones où les Mobondo sèment la terreur.
Parlons de la recrudescence des vols à main armée dans plusieurs quartiers à Kinshasa. Depuis environ un mois, des groupes de bandits, dont certains sont armés, se livrent à des attaques domiciliaires. Ils ciblent également des sites de vente et des lieux d'activité commerciale. Les derniers incidents s'est produit mercredi sur l'avenue Monkoto, dans la commune d'Engiringiri, où une importante somme d'argent a été dérobée. Les points avec Donna Madimba.
Il est 7h du matin, mercredi, lorsqu'un cambiste qui vient de retirer de l'argent garde son véhicule devant sa maison de vente sur l'avenue Monkoto direction Chaba dans la commune d'Ngiringiri. Aussitôt, deux personnes armées de fusils en tenue civile qui semblaient l'avoir filé descendent d'une moto et pénètrent à grands pas dans son shop. Ils intimident les personnes présentes et emportent le sac d'argent à peine sorti du véhicule tout en tirant des coups de feu en l'air. Dimanche dernier, un braquage a échoué au supermarché Kinmarché au quartier Ngilima à Matete, faisant 2 morts et 2 blessés. Le 22 janvier, au moins 4 habitations et une boulangerie ont été visitées par des bandits armés au quartier Molende et Bikinda dans la commune de Selembao. Une femme a été violée et des biens de valeur emportés. En décembre, des cas d'attaque à main armée ont aussi été enregistrés au quartier CPA Mouchi Amboudi. Contacté, le commissaire provincial de la police estime que la situation est meilleure qu'il y a quelques mois et pour lui, la lutte contre la criminalité se poursuit, mais il faut noter que dans toutes les grandes villes, la criminalité zéro n'existait pas.
C'était un reportage de Trio Banzi. Depuis près d'une semaine, plusieurs quartiers de la ville de Likasi dans le Haut-Katanga sont plongés dans le noir. Cette situation affecte de nombreux secteurs, notamment le fonctionnement des médias locaux. C'est le cas de la radio communautaire du Katanga, RCK Likasi, comme l'a précisé Théon Sapou, son directeur de programme, lors d'un entretien avec Jean Gando.
Sûrement, le manque de l'énergie électrique influe négativement au bon fonctionnement de notre radio. Vous le savez, par ce temps qui court où les auditeurs et même les téléspectateurs ont besoin de l'information, nous avons contourné cette difficulté du manque de l'énergie électrique de la SNEL et nous nous sommes rabattus à notre groupe électrogène. Et en utilisant le groupe électrogène, nous travaillons par intermittente, c'est-à-dire le matin entre 6h et 9h, entre 13h et 15h et entre 18h et 21h pour que nous puissions relayer les informations de la radio Capi ainsi que de la Radio France Internationale qui sont nos partenaires. Le manque de l'énergie électrique a un impact négatif. Nous, la radio communautaire au jour d'aujourd'hui, nous connaissons d'énormes difficultés en termes de finances parce que les recettes sont très minimes. Mais nous ne pouvons que faire face à ces difficultés et pouvoir donner l'information à la population. Dès que la situation redevient à la normale, nous tâcherons de travailler 24 heures sur 24.
Contacté à ce sujet, le directeur de la gestion de la clientèle à la SNEL Likasi a indiqué que cette situation est causée par une panne survenue sur la ligne moyenne tension. D'après Delphin Ilunga Chimba, ses équipes sont à pied d'œuvre. La situation pourra être rétablie ce vendredi dans la soirée.
Actualité internationale.
Les autorités sénégalaises ont décidé vendredi d'accorder 10 millions de francs CFA aux familles de 79 personnes tuées au cours de manifestations qui ont secoué les pays entre 2021 et 2024. Chaque famille recevrait cette somme qui intervient comme une première mesure d'assistance annoncée par la ministre de la Famille, Maïmouna Djeyer.
L'invité.
Radio Capi reçoit le professeur Sam Bokolombe, candidat député national invalidé par la CENI lors des élections législatives de 2023 à Bassan-Koussou. Accusé de fraude électorale parmi 81 autres candidats, le dossier du professeur Bokolombe a été pris en charge par le parquet général près la Cour de cassation. Après enquête, le parquet a informé les professeurs que les accusations étaient classées sans suite faute de preuves. Déterminé à rétablir ses droits et à obtenir réparation pour les préjudices subis, le professeur Bokolombe annonce qu'il utilisera tous les recours possibles. Il s'entretient avec Jeff Ngoy.
Professeur Sam Bokolombe, bonjour.
Bonjour.
Comment vous vous êtes retrouvé parmi les gens qui ont été disqualifiés par la CENI?
C'est ce que je veux dire. C'était le 5, pendant qu'on attendait la proclamation des résultats. Et on m'appelle pour me dire qu'il y a des gens qui ont été invalidés. Et le mot correspondant me dira, vous faites partie de ces gens-là. Quoi? Moi invalidé? Qu'est-ce que je fais? Et c'était parti. Et le lendemain, j'ai adressé un recours gracieux pour dire à la CENI, je crois que vous êtes trompé. Il y a erreur dans ce que vous venez de faire là. Moi, je rien fait.
La CENI parlait de fraude électorale et après l'avoir saisi, quelle a été sa réponse?
La CENI n'a pas répondu. En fait, des griefs qu'on m'a fait lire, c'était incitation à la violence contre les agents de la CENI, les actes de vandalisme, c'est-à-dire des actes de destruction méchante, les actes de subornation, des actes de corruption et de fraude électorale. Ouais, il y en a même qui ont poussé les bouchons trop loin en parlant des détentions, des dispositifs électoraux, des machines, quoi. Je sais pas d'où ça sort. Et contrairement après, à d'autres, puisqu'il y a un autre candidat qui était dans le coup, hein, qui est également concerné parmi les 82, mais la CENI a répondu à sa requête et le monsieur a été tiré d'affaire.
Alors, après cette étape, vous n'avez pas entrepris d'autres démarches?
Mais non, pourquoi pas, puisque après cette étape, j'attendais l'ouverture de contentieux électoral devant la Cour constitutionnelle. Ma composante à l'IEMLC a introduit une requête en contestation des résultats et la Cour constitutionnelle n'a pas voulu dire le droit. La Cour constitutionnelle a estimé que la CENI n'est pas compétente pour invalider, mais plutôt que d'aller jusqu'au bout de sa logique, non, qu'elle ne peut pas examiner le fond de l'affaire parce qu'il n'y a pas de résultats. Alors, j'ai saisi le Conseil d'État après.
Et partout là-bas, vous avez été débouté.
Je n'ai pas été débouté par le Conseil d'État, puisque l'instance est pendante. Mais, en même temps, quand vous avez tout suivi, le parquet s'était saisi de l'affaire. Et j'étais très content de voir le parquet sauter sur l'occasion, puisque ces faits-là sont infractionnels.
Maintenant, le parquet, après avoir enquêté, vous écrit aujourd'hui pour vous signifier le classement sans suite. Est-ce que vous en êtes satisfait? De vous blanchir en quelque sorte?
En quelque sorte. Blanchie, de toute évidence. Pourquoi? Parce que quand la CENI, en toute incompétence, invalide, c'est sur base de présomptions, sur base de certains faits présumés, n'est-ce pas? Maintenant, le parquet qui instruit et qui dit que vous êtes hors de cause, qui vous dit que cette affaire est classée sans suite, donc les faits mis à votre charge ne sont pas établis. Donc l'affaire est classée sans suite pour faits non établis. Vous êtes blanchi. Alors là, moi, je pose des questions. Puisque ces faits ne sont pas établis, sur base de quels faits la CENI avait invalidé le bureau de vote. C'est toute la question. Et cela atteste du fait que l'acte posé par la CENI était un acte gratuit et cynique, puisqu'il fallait nuire, il fallait porter atteinte à mon honneur, à ma réputation.
S'agit-il d'une dénonciation calomnieuse? Qu'envisagez-vous de faire pour être réhabilité?
Il y a plusieurs possibilités de droit que je peux utiliser. Il y a d'abord cette option du Conseil d'État en annulation de l'acte de la CENI et en réparation des préjudices. Ça court. Il y a une autre possibilité, réclamation des dommages et intérêts à l'État et à la CENI, une solidum. Et en plus, il y a une autre possibilité, et je suis en train de réfléchir à la manière d'y aller. C'est ce que vous venez de suggérer là. Il n'y a pas eu dénonciation calomnieuse, puisque je n'ai pas été dénoncé auprès d'une quelconque autorité, mais il y a eu des imputations dommageables. On m'a imputé des actes de vandalisme que j'ai jamais commis, ni d'Adam ni d'Ève. On m'a imputé des actes de fraude et de corruption.
Vous étiez 82, vous êtes resté 81.
Ouais.
Mais pourquoi c'est seulement Sam Bokolombe qui reçoit une lettre du procureur pour lui signifier le classement
vous
sans suite?
Vous auriez dû demander à la CENI pourquoi seulement avoir répondu à Kalombe et pas au reste des personnes invalidées. Je voudrais vous dire ceci, juste une réponse de principe. La responsabilité pénale est individuelle.
Maintenant que l'affaire est complètement close au niveau du Parlement, on ne peut plus vous réhabiliter puisque vous n'avez pas été proclamé élu. Il s'agit d'une élection annulée.
Écoutez, oui. Le contentieux électoral n'a pas de délai de prescription. Quel que soit le moment où on découvre des faits qui impactent le scrutin,
on peut
reconsidérer les choses. Mais le problème ici, c'est quoi? La centrale électorale a posé des actes de délinquance en détruisant les résultats. La décision du parquet général après la Cour de cassation honore la justice. Et je vais en tirer toutes les conséquences de droit par rapport à l'État congolais et par rapport à la CENI, eu égard au préjudice subi. Donc je vais utiliser toutes les voies de droit et je ne lésinerai sur aucun moyen.
Merci.
Et c'est par ici que nous bouclons cette session de nouvelles sur Radio Kapi. Mimi Kindou était à la mise en onde et Gisèle Cage l'a préparée pour vous. Je suis Patience Ngalula Mbombo. Merci à vous de nous avoir écoutés.